Voici l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. Bienvenue à tous. Votre rendez-vous avec les médias francophones publics, c'est l'accent des autres avec Radio-Canada, France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et on va commencer sur le continent africain, Amélie Tullet, avec les suites de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Oui, elle a eu lieu samedi dernier, le 31 octobre, et le pays était cette semaine en plein blocage politique, de quoi freiner les activités.
Au Canada à présent, Sébastien Desrosiers, un débat sur la liberté d'expression alimente les tensions.
Après les attentats survenus en France, le premier ministre du Québec s'est porté comme Emmanuel Macron à la défense de la liberté d'expression sans compromis. Justin Trudeau, lui, s'est montré ambivalent.
Sur fond de crise du coronavirus à présent, la situation est toujours tendue en Suisse, Pierre Anchoffat.
On parle désormais de saturation des hôpitaux. La coordination pour transférer des patients vers la Suisse germanophone moins touchée était pour le moins grippée.
Et puis les Français qui se piquent d'être un peuple de littéraires se préparent pour remporter le challenge américain NaNoWriMo, Éric Delvaux.
Oui, un mois pour écrire un roman de 50 000 mots ou comment occuper son temps en France en période de reconfinement. Il y a 360 000 participants dans le monde.
Enfin, cette histoire en Belgique, Johan Monté, qui a fait réagir certains amateurs de spéculoos.
Oui, ces fameux biscuits fabriqués notamment par la marque belge Lotus. Elle a décidé d'abandonner le terme spéculoos l'an prochain pour le remplacer par Biscoff, contraction des mots biscuit et café.
On commence donc avec la présidentielle en Côte d'Ivoire et ses conséquences. Amélie, c'était il y a 8 jours, un scrutin présidentiel contesté.
Oui, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont voté le week-end dernier, le samedi 31 octobre. 4 candidats dans ce scrutin, on le rappelle, le président sortant Alassane Ouattara, briguant un 3e mandat. Face à lui, Kwadio Konan-Bertin et 2 autres opposants, l'ancien président Henri Konan-Bédier et Pascal Affine-Guessant. Ces 2 derniers ont appelé au boycott actif du processus électoral sans toutefois retirer officiellement leur candidature. Conséquence, le pays est en pleine crise politique. Le sortant Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur par la commission électorale selon des chiffres provisoires, mais une partie de l'opposition ne lui reconnaît plus aucune légitimité. De quoi raviver dans les esprits le spectre de la crise post-électorale de 2010 et 2011 qui avait été meurtrière en Côte d'Ivoire. Cela pèse sur les activités économiques. Ainsi, à Abidjan, notre reporter Sidi Yansané a rencontré ce commerçant.
La petite peur, la petite crainte reste toujours, quoi. Donc on demande à nos dirigeants quand même d'y penser, surtout ceux qui sont, nous qui sommes dans les activités informelles. C'est pas facile parce que nous avons des charges, on a des responsabilités et lorsque nous ne pouvons pas exercer notre travail librement, ça a des frais, quoi, ça a des coûts pour nous.
Mais fataliste, cette vendeuse dans la capitale économique ivoirienne explique qu'il faut bien tout de même reprendre.
Vu que si on reste à la maison, on n'aura pas à manger, on est obligé de venir au travail. On reprend progressivement parce qu'au début c'était 15h, 16h. Mais maintenant, la masse confine, c'est à 17h30. Donc, je remets tout entre les mains de Dieu et puis je viens. Parce que je me dis que, quelles que soient les dispositions que je vais prendre, si c'est mon jour, ce sera mon jour.
Et on fera le point, Olivier, sur l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire après cette élection présidentielle la semaine prochaine.
Au Canada, le concept de liberté d'expression divise. Le premier ministre du Québec, comme le président Macron en France, est d'avis qu'il faut la défendre sans compromis. Justin Trudeau, lui, le premier ministre canadien, estime que la liberté d'expression a ses limites. Et cette opinion, Sébastien, elle a été fortement critiquée.
Oui, en fait, disons d'abord que le premier ministre du Canada a condamné à plusieurs reprises les attentats terroristes survenus en France, dont le meurtre de l'enseignant Samuel Paty. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la publication de caricatures de Mahomet, il a expliqué que bien que la liberté d'expression soit fondamentale à toute société libre, elle comporte malgré tout des limites. Justin Trudeau a dit, et je cite, « Nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination ». Fin de la citation. Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est plutôt dit en accord avec le président français qui défend la publication des caricatures. Écoutez.
Je suis d'accord avec Emmanuel Macron. On peut pas accuser des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence, là, Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau. Là, il faut protéger la liberté d'expression.
Voilà, Emmanuel Macron a même appelé François Legault, que l'on vient d'entendre, pour le remercier de son appui, Sébastien.
Oui, le lendemain de cette déclaration, il a appelé le premier ministre du Québec et pas son homologue Justin Trudeau, premier ministre du Canada, un appel considéré par certains dans l'opposition à Ottawa comme une gifle ou un incident diplomatique même, après quoi M. Trudeau a rajusté son propos en précisant qu'il ne condamnait pas la publication des caricatures de Mahomet, qu'il défend bel et bien la liberté d'expression. Il a même reçu à son tour un appel du président Macron jeudi, cordial, semble-t-il. N'empêche, un courant d'air froid semble passer entre Ottawa et Paris.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Suisse à présent, Pierre Anchoffat, la situation sur le front des hôpitaux est particulièrement tendue.
C'est vrai, Olivier, le terme de saturation est même prononcé, particulièrement dans la partie francophone du pays où l'épidémie frappe plus durement. Ces derniers jours, un test sur deux était positif dans le canton de Fribourg, l'un des taux les plus élevés de toute l'Europe. C'est dire la prévalence du virus dans cette deuxième vague. Toute la Suisse romande a désormais fermé les restaurants et les lieux de loisirs pour tenter d'infléchir la courbe et éviter ainsi une catastrophe hospitalière.
Et la situation apparaît donc, Pierran, plus tendue que lors de la première vague en avril dernier.
Pas question de soucis de matériel cette fois, mais bien de place et de personnel en suffisance pour garantir la qualité des soins. Un médecin de l'hôpital fribourgeois a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour décrire cette situation et appeler la population à prendre ses responsabilités. Il regrette de devoir le répéter encore.
Le Covid, c'est pas la grippe. On est en train d'arriver dans une catastrophe sanitaire. La Suisse, qui est un des pays les plus développés d'Europe occidentale, a failli à ses obligations.
Le ministre de la Santé, Alain Berset, comprend certes l'amertume de ce médecin. Toutefois,
ça n'est pas la Suisse qui a failli dans cette situation. Je crois que c'est la collaboration entre les hôpitaux. Il est donc inacceptable que les autres cantons continuent à faire des opérations électives alors qu'on a besoin aujourd'hui de ces capacités pour faire face au corona.
Une attaque frontale contre les hôpitaux de Suisse alémanique qui maintiennent des interventions non urgentes et rechignent à accueillir des patients transférés de Suisse romande pour délester les soins intensifs. Un rappel à l'ordre a priori efficace. La coordination entre les hôpitaux du pays semble depuis repartie sur de nouvelles bases.
Voilà pour la situation en Suisse, et cette répartition de la charge Covid a été à l'origine de certaines tensions en Belgique. Johan, un plan national de répartition existe pourtant.
Un plan basé sur la solidarité et pas sur la contrainte. Il s'agit de répartir équitablement cette charge liée au Covid-19. Mais il a connu quelques couacs, ce plan. Certains hôpitaux ont refusé des patients venus d'ailleurs. Et des politiques s'en sont parfois mêlés. Dans la ville flamande d'Alost, le bourgmestre, le maire, a décidé à un moment de refuser des patients venus de Bruxelles.
L'accent des autres.
Un mois pour écrire un roman à l'heure où tout va de plus en plus vite. Voilà de quoi s'occuper pendant le confinement. En tout cas, il s'agit d'un challenge, il s'agit d'un défi américain lancé chaque année au mois de novembre et auquel des milliers de personnes participent à travers le monde. Un concours d'écriture sur Internet. Il s'appelle NaNoWriMo. Reportage pour France Inter de Corinne Pellissier.
Let me give you some advice.
Sur Internet, les conseils pullulent.
Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du fameux annuel NaNoWriMo.
Des dizaines de vidéos YouTube en français ou en anglais pour réussir son challenge et tenir la cadence. Un mois pour écrire un roman de 175 pages, 1667 mots en moyenne tous les jours. Une vraie discipline à laquelle s'astreint depuis 2016 Cordélia, 27 ans, youtubeuse et auteure de romans.
La première fois quand je me suis lancée, j'avais rien préparé du tout. Je suis allée complètement freestyle. Parce que le NaNoWriMo, normalement, c'est commencer un nouveau roman. Et en gros, l'écrire durant tout le mois. Et donc voilà, il y a plein de fois où le projet NaNo, finalement, on ne le réutilise pas, où il se met dans un coin complètement oublié, jamais terminé. Mais c'est pas grave, quoi. C'était vraiment chouette. Et puis c'était aussi se prouver à soi-même qu'on est capable d'écrire quelque chose de long. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, oui, qui se sont lancés cette année en se disant « Bon, comme je ne veux pas sortir, C'est le moment ou jamais.
Depuis son invention en 99 aux États-Unis, le défi réunit tous les ans des milliers de participants dans toutes les langues et sur tous les sujets. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire.
Non, mais il est plus que temps. Inscription et renseignements sur le site nanowrimo.org, nanowrimo.org. Vous avez jusqu'au 30 novembre, à la fin du mois, pour boucler votre roman. Enfin, c'est un biscuit bien de chez nous, le Spéculo. C'est fabriqué depuis longtemps en Belgique, notamment par la marque Lotus. Et Lotus a décidé, Johan, d'abandonner le terme Spéculoos l'année prochaine pour le remplacer par Biscoff.
Biscoff, contraction des mots biscuit et coffee, café en anglais. Lotus veut en fait harmoniser sa marque parce que le biscuit n'est vendu sous l'appellation Spéculoos qu'en Belgique, en France et aux Pays-Bas. L'an prochain, ce sera donc des Biscoff partout dans le monde, en tout cas pour Lotus. Parce que chez Dandois, une maison bien connue en Belgique, eh bien on continuera à faire des Spéculoos et son patron regrette que Lotus ait fait ce choix.
Moi je le regrette à titre personnel parce que je trouve que le Spéculoos est vraiment un produit belge et qui fait partie de l'ADN du patrimoine gastronomique belge. Je pense que les choix stratégiques de Lotus ne sont pas les mêmes que les nôtres et moi je continuerai, et nous on continuera tout à fait à défendre ce produit. Ça fait 200 ans bientôt qu'on en fait, donc il n'y a pas de raison de changer cela.
Lotus affirme qu'elle a sondé les consommateurs et que pour l'essentiel, ils ne trouvent rien à redire à ce changement de nom. Petite consolation pour les puristes malgré tout, la mention « Original Spéculoos » restera inscrite en petit sur les paquets de Biscoff Lotus.
Merci Johan Monté et merci à tous. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. C'était votre rendez-vous avec l'accent des autres et les médias francophones publics. RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF. Rendez-vous bien sûr, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.